Résume le journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
L'actualité de ce lundi, c'est Kaboul, à nouveau entre les mains des talibans. Le président afghan a quitté le pays. La panique dans les rues de la capitale. Les occidentaux organisent le rapatriement de leurs ressortissants en catastrophe. On y reviendra aussi avec nos invités dans le grand entretien à 8h20. La journaliste Solène Chalvon-Fioriti, nommée pour le prix Bayeux des correspondants de guerre pour son reportage Vivre en pays taliban, diffusé en juin dernier. Et puis Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales. Pourquoi l'armée afghane a-t-elle capitulé si vite? Les talibans d'aujourd'hui sont-ils ceux d'hier? Quelles conséquences pour l'Occident? On leur posera toutes nos questions. On attend aussi les vôtres, chers auditeurs. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Dans le reste de l'actualité, Laurence.
Le séisme en Haïti, un nouveau drame pour ce pays le plus pauvre des Caraïbes. 1300 morts, 5700 blessés, des milliers de sans-abri. Le pass sanitaire obligatoire à partir d'aujourd'hui dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Le coût de la rentrée étudiante est en augmentation cette année et avec l'épidémie, beaucoup de jeunes sont en détresse. Et puis comme on adore les pandas sur France Inter, eh bien on vous donnera, surtout vous Hélène, on vous donnera des nouvelles des nouveaux-nés du zoo de Beauval.
Et puis à 7h50, ils se sont amusés avec un casting 5 étoiles de Karine Viard à Denis Podalydès, de Ramzy à Carole Bouquet ou Monica Bellucci. Des duos inédits et cocasses, les fantasmes, ça sort mercredi après-demain au ciné. Les frères Fuenquinos au micro Inter dans 3 quarts d'heure.
France Inter.
C'est l'image de la nuit des combattants talibans assis au bureau du président afghan Ashraf Ghani, réfugié à l'étranger. Il n'y a plus de doute possible, les insurgés ont pris le contrôle du palais présidentiel à Kaboul, la capitale, et ils ont déclaré, Julie Pietri, que la guerre était terminée.
Oui, nous avons gagné, disent-ils. Ce lundi est un grand jour qui récompense les efforts et sacrifices de la population afghane et des combattants depuis 20 ans. C'est ce qu'a déclaré le chef du bureau politique taliban. Et ces images de combattants insurgés, armes automatiques à la main au cœur du palais présidentiel à Kaboul. C'est évidemment tout un symbole. Il se déplace dans ses couloirs, il s'assoit autour d'un large bureau comme pour dire le pouvoir maintenant c'est nous. La panique à Kaboul est totale. Dans l'urgence, les Afghans tentent de quitter la capitale, notamment par la route. Embouteillages, monstres, coups de klaxon, beaucoup de magasins ont fermé. Les gens se sont précipités aussi vers les banques pour retirer de l'argent.
Et ils se sont précipités aussi vers l'aéroport où les Occidentaux par l'évacuation de leurs ressortissants, Julie.
Dans le ciel de Kaboul, il y a eu tout ce week-end ces hélicoptères de l'armée américaine qui faisaient des allers-retours vers l'aéroport chargés de transporter ses ressortissants, le personnel de son ambassade. 6000 militaires américains ont été déployés pour sécuriser cette zone et les évacuations sont d'ailleurs toujours en cours ce matin. Des personnels diplomatiques, des humanitaires, de ressortissants étrangers. Les Afghans, vous l'avez dit, tentent aussi de fuir via cet aéroport. Sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir des centaines de personnes, hommes, femmes, enfants, qui tentent de se rapprocher, souvent sans bagages, des avions sur le tarmac pour s'échapper. Les forces américaines ont tiré en l'air ce matin, ajoutant à la peur des habitants. En France, Emmanuel Macron tiendra un conseil de défense à la mi-journée avant une prise de parole ce soir.
Merci Julie Pietri. La France, comme d'autres pays, ont promis de protéger et donc d'évacuer les Afghans qui ont œuvré en faveur des droits de l'homme ou qui ont travaillé dans les ambassades. Écoutez le témoignage de cet homme, il va quitter l'Afghanistan. Il travaillait pour le gouvernement afghan et il s'apprête à tout laisser derrière lui.
Là, la situation c'est chaotique et on ne sait pas beaucoup de choses, mais on sait que c'est hors de contrôle. Les routes ont été bloquées, il y avait des tirs. Ce que tu peux imaginer d'une situation d'urgence, le problème c'est que tous les ambassades ont arrêté le visa pour les Afghans à cause de Covid-19 et la plupart des gens sont bloqués. Il y a beaucoup de gens qui sont en risque à cause de leur rôle dans la société droits de l'homme, soit ils ont travaillé dans le secteur de sécurité. Je pars avec ma femme et mon fils, mais le problème c'est que j'ai laissé toute ma famille derrière. J'ai vraiment peur. Donc c'est pas facile de quitter l'Afghanistan comme ça.
Un témoignage recueilli par Valérie Crova.
En Haïti, les sauveteurs à pied d'œuvre à la recherche de survivants après le puissant séisme de samedi.
Et le bilan est encore provisoire. 1300 morts, 5700 blessés, des milliers de personnes sans abri, 30 000 maisons ont été détruites ou endommagées. Parfois, à main nue, les habitants tentent de déplacer les dalles de béton pour retrouver un proche disparu ou bloqué sous les décombres. Correspondance d'Amélie Baron pour France Inter.
Que ça soit avec des engins lourds, tractopelles et camions, ou à main nue équipés d'une simple masse, nombreux ont été ceux au CAI qui ont continué dimanche à déblayer les tonnes de béton, avec l'espoir de sortir vivant une personne des décombres. Les blessés de la ville, mais aussi des villages environnants, affluent toujours vers le principal hôpital du chef-lieu du département du Sud d'Haïti. Assis sur des chaises ou parfois même allongés à même le sol, quantité de patients ont pu recevoir gratuitement des soins dans le service d'urgence. Les médecins sur le pont depuis le séisme ayant reçu le renfort de collègues venant de la capitale. Et les blessés les plus graves ont, eux, été évacués par voie aérienne vers Port-au-Prince et d'autres centres de santé plus spécialisés du pays. Mais l'urgence médicale et logistique demeure et risque de se compliquer car la dépression tropicale Grace se dirige droit sur Haïti et devrait porter des pluies torrentielles et des rafales de vent, notamment sur la péninsule sud-ouest, déjà donc lourdement endeuillée par le séisme. Amélie Baron au CAI, RFI pour France Inter.
Passe sanitaire obligatoire à partir d'aujourd'hui pour entrer dans plus d'une centaine de centres commerciaux en France. La mesure s'applique pour les surfaces, les grandes surfaces de plus de 20 000 mètres carrés, mais le préfet peut aussi l'imposer sur le seuil des 200 cas pour 100 000 habitants si ce seuil est franchi. À Paris où le taux est légèrement inférieur, le pass sera néanmoins demandé par souci de cohérence et d'harmonisation sur l'agglomération. C'est ce qu'explique la préfecture de police. Ce sera le cas au centre commercial Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris. Et là, la mesure semble plutôt bien acceptée. Reportage de Maxime Tellier.
La plupart des clients n'étaient pas au courant hier que le pass sanitaire allait devenir obligatoire dans ce centre, mais Mathieu, un Parisien du quartier, approuve.
J'entends que ça ennuie beaucoup de monde, mais moi ça me rassure parce que ça veut dire qu'on fait attention à qui rentre et on essaye de se protéger contre le virus.
Son de cloche différent, en revanche, pour Eric, père de 5 enfants, il attend la deuxième dose du vaccin avant d'obtenir le pass.
Je ne suis pas convaincu pour leur pass sanitaire. Pourquoi faire des pass sanitaires si une personne qui veut s'acheter à boire ou qu'il a soif dehors et qu'il n'a pas fait le vaccin, il va crever de soif dehors?
Et la loi interdit le pass sanitaire dans le cas où cela compromettrait l'accès aux biens et services de première nécessité. Il se limite aussi aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, mais Eric n'est pas convaincu.
Je l'ai fait parce qu'il faut que je travaille. J'ai 5 enfants à la maison, c'est pour ça que je fais par obligation.
Du côté des commerçants, le pass ne sera obligatoire qu'à la fin du mois. Un délai en plus pour ceux qui n'ont pas reçu leur deuxième dose, explique cette vendeuse d'un magasin de vêtements.
On nous a fortement recommandé d'être vacciné avant le 30 août. Disons qu'on n'a pas trop le choix. En même temps, si on veut continuer à pouvoir travailler, on ne peut pas se permettre d'arrêter de travailler en attendant que la situation passe.
Et certains commerçants dénoncent aussi une inégalité avec les magasins non soumis au pass en dehors du centre commercial. Mais entre le pass sanitaire et le confinement, ils préfèrent le pass.
Et à Belle-Île-en-Mer, ce cluster important dans une colonie de vacances, 62 enfants sont contaminés dans la commune de Palais. Tous seront évacués par bateau demain mardi. Aucun d'entre eux ne présente actuellement de forme grave de la maladie. La plupart sont asymptomatiques. Le centre a été fermé. Les enfants sont confinés en attendant leur rapatriement sur le continent. Covid et conséquences ailleurs dans le monde. Le pass vaccinal entre en vigueur ce lundi à New York, la première grande ville américaine à l'avoir annoncé. Une preuve de vaccination sera exigée pour aller dans un certain nombre de lieux fermés comme les restaurants, les salles de spectacle ou salles de sport. Et puis plus de 600 morts recensés pour la première fois en Iran. Au cours des dernières 24 heures, les autorités ont décidé de fermer les administrations, les banques et les commerces non essentiels sur l'ensemble du territoire à partir de ce lundi.
7h08, la rentrée universitaire plus chère cette année.
En moyenne, un jeune étudiant devra débourser 2 392,47 € selon l'indicateur de la FAGE, la Fédération des Association Générale Étudiante. Explication, augmentation des loyers dans certaines villes, comme Marseille, Angers ou Caen, augmentation du budget téléphone internet et des produits alimentaires. Sans parler qu'avec les confinements successifs, beaucoup d'étudiants n'ont pas eu les petits jobs d'appoint. Cette enquête révèle aussi la détresse des jeunes depuis le début de la crise sanitaire en mars. 75% déclarent avoir été affectés au niveau psychologique, affectif ou physique. Une détresse, Marianne Naquet, qui se ressent toujours aujourd'hui.
À un mois de la rentrée, Thomas angoisse déjà. Cet étudiant en sciences politiques dans une université parisienne se repasse en boucle le scénario de l'année dernière.
J'appréhende un petit peu au regard de l'année universitaire que nous avons pu avoir. Enfin, ça a été vraiment compliqué, ça m'a porté un coup sur le moral vraiment important. Enfin, je n'avais jamais ressenti ça auparavant.
Des bouffées d'angoisse, un isolement total dans un 20 mètres carrés loin de ses proches. Hugo aurait bien aimé pouvoir consulter un psychologue. Impossible financièrement pour cet étudiant de 21 ans.
Oui, je me suis totalement complètement freiné. C'est pas donné. Ça doit tourner dans les alentours de 60 euros. Ce sont des sommes qui sont non négligeables en étudiant. Et c'est assez dingue que donc, ce soin soit devenu un soin de luxe.
Selon la FAGE, 2 étudiants sur 5 ont renoncé à aller voir un médecin pour des raisons financières. Pour son président, Paul Maillot, il faut radicalement revoir l'accès aux soins.
Que la santé ait un coût qui nous empêche après, par la suite, de pouvoir suivre nos études, c'est très problématique. Ce qu'on demande, c'est que l'ensemble des consultations psy puissent être remboursées, que ce soit pour le public étudiantin, mais également le public jeune.
Le syndicat assure avoir obtenu du ministère de l'Enseignement supérieur un retour positif. Jusqu'à présent, pour lui, le chèque d'accompagnement psychologique, seul dispositif d'aide mis en place, n'a pas atteint ses objectifs.
Marianne Naquet. L'OM a été tenu en échec à domicile par Bordeaux. 2 buts partout hier soir, en clôture de la 2e journée de Ligue 1 de football. Pour leur premier match de la saison à domicile, les Marseillais voulaient enchaîner un 2e succès et revenir à hauteur du PSG au classement. Et bien au final, ils sont tombés de haut. 15 jours après la naissance très médiatisée des 2 bébés pandas au zoo de Beauval, beaucoup de questions sur le sujet. Comment se porte-t-il? Comment va la maman? Y a-t-il toujours une panda mania? C'est le reportage de Kathleen Comte.
Depuis 15 jours, Juan Juan et ses 2 jumelles sont très surveillés par le zoo. Tout le monde se porte bien. Les bébés sont dans leur couveuse. Ils se reposent, ils mangent. Et justement, c'est l'heure du repas.
Petite vocalise du petit. Voilà. Et tout de suite, la mère le prend dans sa gueule.
Antoine Leclerc, vétérinaire à Beauval.
Alors on va voir, là, elle se met vraiment bien en position comme ça, assise, assez enroulée sur elle-même. Elle positionne le petit et voilà.
La tétée dure environ 10 minutes par bébé, le tout sous l'œil d'une caméra qui retransmet en direct sur écran pour permettre au public d'avoir des nouvelles. Une bonne idée pour Elodie, venue en famille de région parisienne.
Effectivement, on aurait bien aimé les voir, mais comme ils sont trop fragiles, c'est bien d'avoir compensé avec une webcam. Comme ça, on peut les voir un petit peu aussi évoluer par rapport à ce qu'on peut voir aussi à la télé. Voilà, puis avoir peut-être d'autres explications à travers les écrans, des choses qu'on ne connaît pas.
Il faut dire que les pandas sont les stars de Beauval. Samuel Leroux, directeur d'exploitation du zoo.
Il y a une pandamania quand même à Beauval, on va quand même pas se le cacher. On a la chance d'avoir cette exclusivité, c'est un animal qui attire beaucoup les enfants comme les adultes et voilà, c'est devenu un peu notre symbole. Le panda nous a permis d'avoir une identité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le zoo où il y a des pandas. Beauval, c'est les pandas.
La rencontre entre les 2 bébés et le public est prévue pour décembre ou janvier.
Et reportage de Kathleen Comte de France Bleu Berry. On va y aller voir ces bébés pandas.
Oui, on est un peu panda maniaque nous aussi, Laurence, il faut bien l'avouer. Merci pour le journal, Laurence Thomas. Le Zoom, dans une poignée de minutes, cette semaine, on vous fait faire le tour du monde. Et ce matin, on part pour la Sibérie orientale. Ce sera sous le ciel noir de Krasnoïarsk. Restez avec nous sur France Inter.